Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Et bienvenue sur RFI. Donald Trump accentue la pression sur Volodymyr Zelensky après l'altercation publique avec le président ukrainien dans le bureau ovale. Le président américain suspend l'aide militaire à Kiev. Est-ce que c'est une bonne manière pour lui, pour Trump, d'arriver à ses fins ?
Il peut imposer. Enfin, il est en train de faire ce qu'il avait annoncé, hein. Dans le livre récent que j'ai réécrit...
Le nouveau dictionnaire de la... amoureux de la géopolitique.
Nouveau, donc, je dis sur Trump, impensable, mais vrai.
Oui.
Donc il est en train de faire ce qu'il a annoncé. Il annonce depuis des mois et des mois, enfin s'il serait élu, puis après l'élection, qu'il veut arrêter la guerre. Le moyen le plus direct d'arrêter la guerre, c'est d'arrêter le soutien à l'Ukraine. En plus, Zelensky, il prend Zelensky pour un soutien de Biden, un complice de Biden, donc ça explique en partie la violence extravagante dont il a fait preuve par rapport à lui, mais l'idée c'est d'arrêter la guerre, se débarrasser de cette guerre. Il est centré sur la question asiatique, chinoise, comme l'étaient déjà d'ailleurs Obama et Biden dans un style différent. Donc il est en train de le faire, il peut le faire, il peut arrêter le soutien. D'où la question qui se pose, que les gens découvrent maintenant, mais qui se pose depuis des semaines, c'est du coup, est-ce qu'il y a des garanties pour l'Ukraine après, pour que Poutine ou un autre Russe, parce que tous les Russes sont d'accord sur la ligne Poutine, on était sur l'Ukraine, pour que les Russes soient dissuadés après. Et ça, on ne sait pas. Ça se joue maintenant, il n'y a pas la réponse à ça.
Oui, beaucoup d'incertitudes. Est-ce que les Américains ont changé de camp avec ce nouveau président ?
Oh, ça va beaucoup plus loin. C'est nous qui avons changé d'Amérique, en fait.
Oui.
Il faut oublier l'Amérique du XXe siècle, tout ce qui va de Wilson, même si ça n'a pas marché, Roosevelt, etc. On a affaire à une sorte d'Amérique du XIXe, beaucoup plus forte, mais quand même une Amérique nationaliste, mercantiliste, exporter un maximum, importer un minimum, avec une vision impérialiste nord-américaine qui va de Panama jusqu'au Groenland, avec un désintérêt absolu pour la pratique multilatérale de la négociation, donc toute la planète diplomatique et son dessus-dessous par rapport à ça.
Tous les codes, toutes les règles n'existent plus.
Voilà, il n'y a pas d'alliés, il n'y a que des pays qui ont des excédents commerciaux, enfin ceux qui ont des excédents commerciaux sur les États-Unis, il faut les combattre. Commencer par l'Europe, Chine, Mexique, etc. Quant à aux valeurs, entre guillemets, on l'a vu avec Vance à Munich, ce sont d'autres valeurs maintenant. Ce n'est pas du tout les mêmes valeurs, il y a une sorte d'antagonisme frontal. Et le pays qui a inventé le politiquement correct, qui avait dégénéré un mouvement woke, prend la tête de l'éradication du wokisme. Donc la planète progressiste dans le monde, Europe-Canada, est également complètement déboussolée.
Donc on vit un authentique moment de bascule, Hubert Védrine.
Oui, enfin, on a changé. Oui, oui.
Oui, on a changé de monde.
On a changé de monde.
On a changé de monde.
Je sais bien qu'il y avait des prémices de ces comportements aux États-Unis avant, mais... En réalité, c'est complètement différent.
Mais c'est un changement que vous percevez définitif ou provisoire ? Est-ce que ça tient à la simple personnalité et à l'équipe de Trump ?
Non, je ne dirais pas ça. Je pense que c'est durable. Je pense que dans le vote par raz-de-marée, mais enfin un vote quand même assez clair aux États-Unis, la demande de coup d'arrêt de la mondialisation trop délocalisatrice et la demande de coup d'arrêt au progressisme américain, c'est un vote populaire profond, qui est un peu le résultat peut-être d'une série d'errements des élites américaines d'avant, des deux partis. Donc pour moi c'est durable, et l'avenir du Trumpiste, c'est le vice-président Vance, qui est plus dur que lui, qui est isolationniste pour de vrai.
Donc, je pense que l'un des plus vindicatifs vendredi dans le bureau ovale face à Zelensky.
Oui, ils en veulent à Zelensky pour 36 raisons, etc. Mauvaise, enfin, c'est comme ça. Donc je pense que c'est durable. En tout cas, ça ne servira à rien, nous, en Europe, qui sommes en première ligne maintenant, de dire c'est un accident. Ce que les Européens ont pensé pendant le premier mandat Trump, en disant que c'est un cauchemar qui va se terminer. Oui. On ne peut pas raisonner comme ça.
Donc il faut raisonner sur le temps long, se dire que ça n'est pas un accident et qu'on est à un point de bascule, comme vous le disiez, de rupture véritable. Il n'y a plus rien à sauver dans la relation transatlantique, États-Unis-Europe.
Non, on ne peut plus parler d'Occident, parce que c'était un mot fumeux mais global, comme s'il y avait les mêmes valeurs. Ce n'est pas vrai, on est des cousins issus de Germains de plus en plus éloignés.
Ouais.
Bon. Après, il y a quand même une relation transatlantique. Tant qu'il y a l'Alliance, il y a l'Alliance. Tant qu'il y a l'OTAN, il y a l'OTAN. On va voir. D'ailleurs, les autres Européens, ils ne veulent pas couper. Ils sont épouvantés ou désespérés à l'idée d'avoir à couper. Donc, ils vont essayer de maintenir le lien. Regardez le Premier ministre britannique. Bon, et il n'y a pas de... Ça sera très dur pour les Européens qui ont des armées. On ne parle pas de l'Union Européenne, qui n'a pas de compétences dans l'Union, dans le domaine de la défense.
Vous parlez des Européens en tant que nation différente, et pas en tant qu'Union Européenne, puisque vous parlez même des Britanniques.
Union Européenne, c'est pour les questions de commerce et de régulation. Là, on parle de défense, donc des États européens de l'Alliance Atlantique. Les dirigeants des 5 ou 6 pays qui ont des armées capables vont avoir beaucoup de mal à confirmer l'idée d'envoyer des troupes pour garantir un éventuel cessez-le-feu s'il n'y a pas un minimum de garantie américaine. Mais ça, on ne le sait pas. Au jour où nous parlons, vous voyez, c'est des enjeux qui ne se sont jamais présentés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, oui. On est vraiment on a basculé dans autre chose. La question à présent, c'est, vous l'évoquez, que faire ? Que peuvent faire les Européens pour aider l'Ukraine ? On parle de défense européenne, mais la défense européenne, elle n'existe pas, Hubert Védrine.
Non, l'Europe est défendue à la demande des Européens par l'Alliance Atlantique, donc par les États-Unis, depuis l'après-guerre. Ils n'ont jamais voulu avoir une défense autonome et une puissance européenne. Sinon, ils auraient été gaullistes. Ils n'auraient pas passé leur vie à embêter le général de Gaulle. Et ils auraient fait l'inverse. Bon. Ils auraient soutenu le premier discours de Macron il y a quelques années. Donc la question va être celle des garanties éventuelles et d'autre part de la création, si on y arrive, d'un pilier européen de l'Alliance Atlantique. Ça concerne les 5 ou 6 pays d'Europe qui ont des armées. C'est devant nous, donc je ne peux pas aller au-delà, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que la crise à haute tension va surgir une Europe tout à fait nouvelle, qui n'aurait rien à voir, ni avec le passé, parce que les Européens se battaient entre eux, ni avec ce qui s'est passé depuis 1949, puisque l'Europe était protégée par l'Amérique.
Donc
c'est un moment totalement nouveau.
Totalement nouveau. Il est aussi question de dissuasion nucléaire dans le débat. C'est Emmanuel Macron qui a mis cette question dans le débat. Il faut réfléchir à la dimension européenne de la dissuasion, a-t-on entendu de la bouche du président français. Qu'est-ce que vous comprenez à cette formule ?
C'est un sujet gravissime. On ne peut pas en parler. On a une minute là. On ne peut pas en parler. Je dirais simplement qu'il faut distinguer deux choses. La décision de dissuasion ne peut pas se partager. Il faut un dissuadeur crédible.
La décision d'appuyer sur le bouton.
On ne le fait pas, c'est la menace 2.
La menace 2. Donc il faut qu'on identifie, c'est bien la France qui garde ce...
La France, la Grande-Bretagne, c'est la même chose pour la Russie ou les États-Unis. La décision de dissuasion, l'incarnation de la dissuasion ne peut pas se partager. Sinon, il n'y a plus de dissuasion. Il y a un débat qui est complètement différent, c'est est-ce que notre dissuasion, on va protéger d'autres que le territoire national et nos intérêts vitaux. La seule question à se poser, c'est est-ce que c'est crédible du point de vue de l'agresseur potentiel ? C'est ça la question.
Est-ce que les intérêts vitaux de la France s'élargissent à ceux de l'Europe ?
C'est le débat. Je ne peux pas répondre comme ça. Là. C'est le débat. En tout cas, il ne faut pas se placer du point de vue des gens qu'on a envie de protéger ou qui remercieraient, vous voyez, ou qui sont demandeurs. Il faut se placer du point de vue de l'agresseur potentiel dans le débat des prochaines semaines. Qu'est-ce qui serait vraiment crédible du point de vue d'un agresseur potentiel ?
Qu'est-ce qui serait crédible et donc efficace ? Qu'est-ce qui y aurait un effet ? Hubert Védrine, le monde est une matière en fusion, écrivez-vous dans votre nouveau dictionnaire mot de la géopolitique. On le constate chaque jour. Je voudrais qu'on dise un mot du Proche-Orient. Est-ce que la nouvelle donne américaine change beaucoup de choses ? Le soutien à Israël continue ? Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ce n'est pas le soutien à Israël. C'est le soutien même pas de Netanyahou. C'est le soutien au parti suprémaciste. Et le plan sur Gaza, c'est un plan de nettoyage ethnique. Si encore Trump disait « on va reconstruire Gaza et faire une cité balnéaire pour les Palestiniens », le débat serait complètement différent. Oui. C'est fondé sur l'idée d'expulser les Palestiniens de Gaza, sans parler des actions en Cisjordanie pour essayer de pousser à une réaction violente les Palestiniens de Cisjordanie, etc. Donc la question par rapport à ce plan de nettoyage ethnique, il faut appeler les choses par leur nom, c'est que va faire l'Arabie ? Alors Trump a besoin de l'Arabie dans son plan Moyen-Orient, et pour des raisons pétrolières. Il a besoin de l'Arabie pour rentrer dans une relance des accords d'Abraham. Or, l'Arabie ne peut pas souscrire à un plan de ce type. Ce qui fait que ça place l'Arabie dans les prochaines semaines dans une position centrale, très importante, et que peut-être Trump, même dans la pétaudière là, qu'il est en train de créer partout, sera obligé d'intégrer des éléments de la position de l'Arabie, d'autant que sa politique a réunifié les pays arabes, qui sont toujours en désaccord entre eux, mais là, non.
Merci Hubert Védrine d'être venu ce matin pour nous parler de tout ça. Votre nouveau dictionnaire à mots de la géopolitique est paru. C'est Plomb. Bonne journée à vous.